Rudolf Steiner, Mythes et mystères égyptiens. Septième conférence faite à Leipzig le 9 septembre 1908. Dans les conférences précédentes, nous avons parcouru un long cycle d'événements concernant les rapports entre l'évolution de la Terre, le système solaire et la nature humaine. Nous avons étudié plus particulièrement les moments de cette évolution du Soleil, de la Terre et de la Lune, reflétés dans les anciens mystères égyptiens, mystères qui étaient à la fois connus des néophytes et du peuple tout entier. Par la vision clairvoyante, le néophyte acquérait toutes ces connaissances que nous avons exposées et que nous allons étudier de plus près aujourd'hui. La grande masse du peuple, qui ne pouvait s'élever jusqu'à la clairvoyance, apprenait tout cela à l'aide d'une image essentielle, image qui a été la plus importante de toute la conception égyptienne et dont nous avons déjà parlé. C'est celle de la légende d'Isis et d'Osiris. Nous la connaissons tous. Nul ne doute qu'elle ait un contenu important. Pour l'Égyptien, cette image placée devant lui n'était pas qu'un simple tableau. Voici le contenu approximatif de cette légende. En des temps reculés, Osiris régna longtemps pour le bonheur des hommes. Il régna jusqu'à une certaine époque, caractérisée plus tard par le fait que le soleil se trouvait dans le signe du scorpion. C'est à ce moment que son frère, Typhon, ou Seth, tua Osiris. Il le tua en le faisant entrer dans un coffre qu'il ferma et qu'il livra à la mer. Isis, la sœur et l'épouse d'Osiris, chercha son frère et époux, et lorsqu'elle l'eut trouvé, elle l'amena en Égypte. Mais Typhon, le mauvais, voulut encore le faire disparaître. Il le coupa en morceaux, Isis rassembla les différents morceaux et les enterra à des endroits différents. On montre encore aujourd'hui en Égypte divers tombeaux d'Osiris. Puis Isis eut un fils, Horus, qui se vengea sur Typhon de la mort de son père Osiris. Osiris reprit sa place dans le monde des êtres spirituels divins et il ne vit plus sur la terre. Il travaille encore pour l'homme lorsque celui-ci réside dans le monde spirituel entre la mort et une nouvelle naissance. C'est pourquoi, en Égypte, on appelait le chemin parcouru par le mort le chemin qui mène à Osiris. Telle est la légende qui fait partie des éléments les plus anciens de la conception égyptienne de l'existence. Bien qu'ayant subi des modifications ou des rajouts, la légende d'Osiris s'est maintenue à travers tous les cultes de l'Égypte aussi longtemps que les conceptions religieuses égyptiennes ont vécu. Après nous être remémoré cette légende, dans laquelle des faits réels sont résumés, tels que le néophyte les contemplait dans les mystères sacrés des écoles ésotériques, revenons à l'étude plus détaillée, commencée hier, de l'influence des différentes phases de la Lune sur l'homme. Nous avons vu que 28 cordons nerveux qui partent de la moelle épinière correspondent aux 28 phases différentes de la Lune, pendant lesquelles elle accomplit un cycle complet. Nous avons percé le mystère des forces cosmiques qui ont provoqué en l'homme la formation de ces 28 paires de nerfs. Je vais vous demander maintenant toute votre attention. Nous allons voir aussi exactement qu'il est possible de le faire dans le cadre d'une esquisse aussi brève, ce que le néophyte égyptien apprenait au sujet du développement de l'homme. Dans une perspective encore plus large, cette description fera dire à ceux que les idées modernes en anatomie ont déjà trop profondément façonné, d'un point de vue actuel, ces affirmations sont pure fantaisie. Laissons-les dire. Qu'ils sachent seulement que c'est la doctrine dont les néophytes égyptiens eurent la vision clairvoyante. Je parle maintenant pour ceux dont le cœur peut me suivre. Cette doctrine n'est pas seulement le fruit de la vision occulte des Égyptiens. Elle est encore une vérité pour l'occultiste moderne. Et il lui apparaît exactement sous le même aspect. Rappelons un des points évoqués dans les dernières conférences. Au début de son évolution, la Terre n'était faite que de germes d'êtres humains, qui constituaient le brouillard terrestre originel. Le clairvoyant indien ou égyptien a pu voir croître de ce germe spirituel la forme humaine ultérieure. On pouvait à cette époque percevoir par clairvoyance tout le devenir auquel était appelé ce germe. Mais on pouvait aussi remonter jusqu'à la vision des premières formes qu'avait prises ce germe de l'homme. Au moment où le soleil était encore uni à la terre, c'était une sorte de plante tournée comme un calice vers le ciel. Ces formes, nées du brouillard originel, emplissaient pour ainsi dire toute la terre. Mais tout au début de leur formation, ces corolles ouvertes vers l'espace cosmique étaient à peine visibles. On aurait tout juste pu percevoir leur proximité par l'impression d'un corps de chaleur en forme de calice. Un corps de chaleur, c'est la première chose qui a existé. Alors que le soleil était encore uni à la terre, l'intérieur de cette forme humaine commença à briller et à émettre dans l'espace cosmique des rayons de lumière. Si à cette époque, on s'était approché de cette forme lumineuse avec nos yeux d'aujourd'hui, on aurait distingué comme une sphère étincelante, rayonnante, comme un soleil brillant à la forme régulière qui envoyait dans l'espace des rayons lumineux. C'est à peine si l'on peut se faire aujourd'hui une image claire de ce qu'était la Terre autrefois. Pour se l'imaginer, il faudrait se représenter, par un soir très pur, le sol couvert de vers luisants irradiant leur lumière dans l'espace. Ainsi rayonnait dans le monde la première forme humaine lorsque le soleil était encore uni à la terre. À peu près à la même époque, une sorte de corps gazeux vint se former autour de ce calice. Ce gaz contenait en suspension beaucoup de substances, comme aujourd'hui se trouve dans le corps de l'homme et des animaux de nombreuses substances liquides ou solides. Elles étaient alors toutes gazeuses. Mais peu après, d'autres germes sortirent encore du sein de la terre. La première ébauche de notre règne animal actuel. Le règne humain était donc apparu le premier, puis vinrent les germes du règne animal. La terre tout entière se composait encore d'une masse d'air, faite de corps lumineux rayonnant dans l'espace. Dans cette masse apparut aussi la première ébauche d'animaux asexués, qui se trouvaient alors sur le dernier échelon de notre règne animal actuel. Et nous verrons que ces animaux qui s'ébauchaient alors ont eu une certaine importance pour le développement de l'homme. C'est ainsi donc que naquirent les premiers germes des animaux. Notons bien qu'ils constituaient les masses gazeuses les plus denses, comparables à des inclusions. Passant par les formes les plus diverses, ils atteignirent un certain degré d'évolution. Quand le soleil quitta la terre, la forme animale la plus évoluée était celle des poissons. Ce n'était pas la forme actuelle des poissons, mais elle correspondait bien au stade entre guillemets poisson. Nos poissons ont fixé dans leur forme le niveau de l'évolution qui fut atteint avant que le soleil ne quitta la terre. Cette dernière se condensa, devint liquide. Dans cette masse terrestre liquide nageaient les formes les plus denses, les animaux. C'est alors qu'il se produisit un événement singulier. Quelques-unes de ces formes de poissons primordiaux restèrent animales et cessèrent d'évoluer. Mais quelques autres entrèrent en rapport avec les formes humaines de la façon suivante. Au moment où le soleil se sépara de la terre, celle-ci commença à tourner autour de son axe. Les phases de la terre se présentèrent alternativement à la lumière, et cette alternance de lumière et d'ombre forma le jour et la nuit. Mais à cette époque, les jours et les nuits étaient beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. À l'époque où la lune était encore unie à la terre, chaque fois qu'une de ces formes humaines, maintenant bien plus dense, se trouvait sur le côté de la terre éclairé par le soleil, l'une des formes animales venait se joindre à cette masse gazeuse, en dessous, dans la masse liquide de la terre. La forme animale s'unissait à la forme humaine. En haut, la forme humaine, en bas, la forme animale. Très développée et tendue vers le soleil, la partie supérieure allait s'affaiblissant vers le bas. et il venait s'y ajouter le corps animal. Nous avons donc cette partie supérieure qui émergeait de la terre liquide. Du fait que les forces du soleil passaient à travers l'homme-fleur supérieur, elles venaient agir sur les forces intérieures de la lune et de la terre. Au corps humain venait s'ajouter une forme animale qui se trouvait au niveau d'évolution des poissons. Et c'est pourquoi l'on dit que le soleil qui éclairait le corps humain se trouvait à cette époque dans le signe des poissons. La première ébauche de cette double nature coïncida en effet avec le passage du soleil dans le signe des poissons. Mais il traversa encore souvent cette constellation avant que la forme suivante ne prenne naissance. Le point où commença à se dessiner ce que nous étudions en ce moment est situé à l'époque où, au ciel, le soleil était dans la constellation zodiacale des poissons. Le nom de cette dernière lui vient de ces êtres venus se joindre à l'homme et qui se trouvaient à cette époque au même degré d'évolution que les poissons. Nous savons que, par la suite, la lune et la terre ne forment encore qu'un seul corps. Yahvé, au moment où le soleil s'est séparé de la terre, est resté avec les forces de la lune, et parmi ses serviteurs se trouve le dieu que les Égyptiens appelaient Osiris. L'évolution se poursuit de façon singulière jusqu'au moment où la lune se sépara de la terre. Avant le départ de la lune, la terre était liquide, et les formes humaines aqueuses y devenaient de plus en plus grossières. Au moment du départ de la Lune, la partie inférieure de l'être humain avait le degré d'évolution, disons, d'un grand triton. C'est ce que la Bible appelle le serpent, ce qu'on nomme aussi le dragon. À mesure que la Lune s'éloigne, le règne animal pénètre de plus en plus la partie inférieure de la forme humaine. Quand la séparation est accomplie, l'homme flotte dans la masse liquide, sa partie inférieure présente une forme animale disgracieuse, et dans sa partie supérieure se trouvent les derniers restes d'une forme lumineuse, dans laquelle viennent se déverser les forces du soleil. Les êtres de lumière continuent donc d'agir dans l'homme. Il se meut en nageant dans la mer originelle, d'où émerge cette singulière forme lumineuse. Qu'est-ce donc que cette forme qui, entre-temps, s'est transformée en un immense et puissant organe de perception? Lorsque la Lune quitta la Terre, la transformation était accomplie. Grâce à cet organe, l'être humain, qui nageait, percevait l'approche de tout élément dangereux. Il percevait en réalité la chaleur et le froid. Par la suite, cet organe s'est atrophié. On l'appelle aujourd'hui la glande pinéale. À cette époque, l'homme se mouvait en nageant dans la masse terrestre, s'en servait comme d'une sorte de lanterne. La partie supérieure du crâne des tout jeunes enfants montre encore aujourd'hui une place toute molle, la fontanelle. C'est à peu près l'endroit qui correspond au point d'où s'étendait vers l'espace l'organe en question. L'homme s'assimilait des formes animales de plus en plus élevées. À un certain point de la formation du corps humain, on appela l'être qui résultait de la transformation des poissons le Verseau, en latin Aquarius, parce qu'il vivait dans l'eau et qu'il contenait en germe la forme humaine future. Un progrès dans la forme correspondit à ce qu'on appela le Capricorne. Fait curieux, les parties inférieures du corps humain, à mesure qu'elles se formaient, ont vraiment donné leur nom à la constellation correspondant à l'époque de leur formation. Les pieds sont réellement les poissons originels, le bas des jambes, le Verseau. Elles permirent longtemps à l'homme de se diriger en nageant. Les genoux sont en rapport avec le signe du Capricorne. L'animalité se développait toujours davantage. La forme qui correspond aux cuisses fut appelée le Sagittaire. Expliquer cette expression nous entraînerait trop loin. Je vais seulement vous esquisser l'aspect qu'avait la forme humaine à l'époque où l'évolution des formes animales traversait le stade du Sagittaire. En ce temps-là, l'homme était un animal qui commençait à se mouvoir pour la première fois sur les îlots surgissant peu à peu des eaux. Sa forme s'affinait de plus en plus vers le haut. et elle se terminait encore par la corolle dont nous avons parlé. Un organe que l'homme portait comme une sorte de lanterne sur la tête éclairait toute sa silhouette. À cette époque, l'être humain était plus éthéré dans sa partie supérieure et semblable à un animal dans sa partie inférieure. Les très anciennes reproductions du zodiaque représentent le Sagittaire comme un être mi-homme, mi-bête. Ces représentations rendent réellement compte du degré d'évolution où l'homme se trouvait alors, de même que le Centaure, mi-homme, mi-cheval, correspond vraiment à un stade d'évolution de l'homme. Le cheval ne doit pas être pris uniquement en tant que tel, mais il faut le considérer comme le représentant de l'animalité tout entière. Tel était le principe qui guidait les artistes autrefois. L'œuvre d'art reproduisait la vision spirituelle qu'ils avaient eue des objets ou que des clairvoyants leur avaient raconté. Les artistes étaient souvent eux-mêmes des initiés. On dit par exemple d'Homère qu'il fut un voyant aveugle. Cela veut dire qu'il était clairvoyant. Il lisait dans la chronique de l'Akasha. Homère, le voyant aveugle, voyait beaucoup mieux en esprit que les autres Grecs. Le Centaure est donc une vraie forme humaine. Au moment où l'homme avait réellement cet aspect, la Lune ne s'était pas encore séparée de la Terre. L'homme possédait encore l'organe qui s'était formé pendant la période solaire, la glande pinéale lumineuse, qu'il portait sur la tête comme une lanterne. Lorsque la Lune se sépara de la Terre, eut lieu la différenciation des sexes. L'homme Centaure était encore asexué. La différenciation des sexes se produisit à l'époque où le Soleil se trouvait dans le signe du Scorpion, et c'est pourquoi l'on fait correspondre la sexualité de l'être humain avec le signe du Scorpion. Le Scorpion correspond au niveau d'évolution des formes animales qu'avait atteint l'homme au moment de la formation des sexes. Par sa partie supérieure, l'homme était uni aux forces cosmiques. Dans sa partie inférieure, il fut divisé entre deux sexes à partir de cette époque. L'homme devint un être sexué. Lorsque le néophyte clairvoyant des mystères égyptiens dirigeait son regard vers ces temps de l'évolution terrestre, il voyait la terre peuplée d'êtres humains dont le corps, image de leur nature inférieure, se densifiait vers le bas, mais qui avait vers le haut une forme humaine lumineuse. Puis vint l'époque à laquelle, grâce aux forces de la Lune, les cordons nerveux se formèrent le long de la colonne vertébrale. La partie qui surmonte cette colonne, la région actuelle de la tête, s'était également condensée et transformée, donnant naissance au cerveau humain, résultat de la métamorphose complète de l'organe lumineux. De ce cerveau partait la moelle épinière, à laquelle se rattachaient les cordons nerveux et au-dessus de laquelle se trouvait l'homme inférieur, tel que nous venons de le décrire. Voilà ce que voyait le néophyte égyptien, et il comprenait qu'une entité quelle qu'elle fût, qui voulait s'incarner sur Terre, devait adopter la forme humaine correspondante. En tant qu'esprit, Osiris est souvent venu sur la Terre et y a pris la forme humaine. Les humains exprimaient alors leurs sentiments en disant « Un dieu est descendu ». Mais ce dieu apparaissait sous la forme humaine. Tout être spirituel qui descendait sur la terre y prenait la forme qu'avaient les hommes à ce moment. À cette époque, on pouvait voir encore cet organe lumineux, cette étrange parure de tête, la lampe d'Osiris, qu'on a représentée symboliquement par le curieux œil de Polyphème. C'est cet organe, cette lanterne, qui se trouvait d'abord à l'extérieur du corps humain et qui s'est transformé par la suite pour devenir un organe à l'intérieur du cerveau. Dans l'art originel, tout est symbole de réalité. Lorsque les initiés grecs prirent connaissance de ces secrets égyptiens, bien des choses déjà leur étaient connues. L'essentiel, au fond, de ce que savait l'initié égyptien. Ils employèrent simplement d'autres termes. Les initiés égyptiens avaient fortement développé leurs dons de clairvoyance, de sorte que beaucoup de leurs disciples pouvaient avoir la vision des temps lointains du passé. L'initié égyptien avait un lien originel avec tous ces mystères. Et c'est pourquoi les prêtres grecs lui apparaissaient comme des enfants bégayant leurs propres mots. C'est ce que caractérise fort bien la phrase que prononça un prêtre égyptien s'adressant à Solon. « Ô Solon, Solon, vous autres Hélènes resterez toujours des enfants. Il n'y a point de vieillards parmi vous. Vous êtes tous jeunes en esprit, car votre connaissance n'est pas fondée sur une antique tradition. Vous n'avez pas la science vénérable acquise au cours des siècles. » Ainsi, l'Égyptien indiquait que la sagesse de ces mystères dépassait infiniment la connaissance qui peut être acquise à l'aide des sens. Seuls les mystères d'Éleusis dispensaient cette même sagesse, mais bien peu y avaient accès. L'initié égyptien connaissait ces périodes de l'histoire de la Terre, la séparation du dieu Osiris et du Soleil, la venue d'Osiris sur la Lune, d'où il renvoyait la lumière du Soleil. Cette connaissance formait aussi la science sacrée des Grecs. Eux aussi savaient que c'est le dieu Osiris qui forme les 28 phases de la Lune et qui, de ce fait, a façonné les 28 cordons nerveux de l'homme. C'est Osiris qui a formé tout le système nerveux rachidien et en même temps toute la partie supérieure du corps humain. Car les muscles doivent leur forme aux nerfs qui les sculptent. Tout ce qui dans l'homme est muscle, cartilage, autres organes, comme le cœur et les poumons, a pris forme grâce aux nerfs. Le cerveau et la moelle épinière ont été formés par l'activité antérieure du soleil, et les 28 formes d'Osiris et d'Isis sont venues travailler de l'extérieur sur cette moelle épinière. Osiris et Isis sont donc les sculpteurs de toutes ces formes. Et tandis que le cerveau fait descendre ses prolongements dans la moelle épinière, Osiris travaille sur cette moelle épinière et la transforme. Cela, le grec le ressentait aussi. Et lorsqu'ils prirent connaissance des mystères égyptiens, ils reconnurent qu'Osiris était ce dieu qu'ils appelaient Apollon. Ils disaient « L'Osiris égyptien est notre Apollon, et, comme lui, il agit par les nerfs, afin que s'animant l'homme la vie de l'âme. » Esquissons rapidement cette action. Représentons-nous schématiquement le cerveau, prolongé par la moelle épinière, où viennent s'attacher les 28 mains d'Osiris, qui vient jouer de ses 28 bras sur la moelle qui descend du cerveau, comme sur une lyre. C'est ce que les Grecs, par une image frappante, appelaient la lyre d'Apollon. Il suffit de se la représenter retournée. Le cerveau est la lyre, les nerfs sont les cordes qui font vibrer les doigts d'Apollon. Apollon joue sur la lyre cosmique, sur le chef-d'œuvre formé par le cosmos, et fait vibrer en l'homme les sons qui emplissent la vie de l'âme. C'est sous cette forme que les initiés des mystères d'Éleusis voyaient ce que les Égyptiens avaient exprimé par d'autres images. Ces symboles nous apprennent qu'il faut se garder de les interpréter schématiquement, car on ne ferait alors que fabuler à leur sujet. Ces images sont en réalité bien plus profondes que tout ce que l'intelligence est capable d'y trouver. Lorsque le clairvoyant grec parlait d'Apollon, il voyait devant lui le mystère d'Apollon Osiris et de l'instrument humain. Et le néophyte égyptien voyait Osiris devant lui lorsqu'on l'initiait au mystère de la vie sur la terre. Il faut donc bien nous dire que ces symboles qui ont été conservés jusqu'à nous, toutes ces expressions des mystères originels, ont un sens bien plus profond que tout ce que l'intelligence peut en saisir. Cette lyre, ces mains d'Apollon, ont réellement été vues. Il est essentiel que nous rapportions chaque symbole à une vision authentique. Tous les symboles, toutes les légendes correspondent à des vérités que l'on a contemplées. Le disciple égyptien qui devait être initié n'accédait à ces mystères qu'après une très longue préparation. Il prenait d'abord connaissance d'un enseignement qui ressemble un peu à notre théosophie élémentaire. Ensuite, il lui était permis de se livrer aux exercices. Il se trouvait alors dans une sorte d'extase qui n'était pas encore la véritable clairvoyance, mais qui était cependant plus que le rêve. Il voyait vaguement ce qu'il devait plus tard contempler en image. Comme, en un rêve immense et vivant, il voyait la lune se séparer de la terre, accompagnée par Osiris. Il voyait celui-ci diriger ensuite son action vers la terre. Il rêvait en réalité la légende d'Osiris et d'Isis. Et il en était ainsi pour chaque néophyte. Chacun d'eux devait passer par là, car sans cela, il n'aurait pu arriver à la vision des faits véritables. Le néophyte devait passer par la phase de l'image, de l'imagination. Il devait vivre intérieurement la légende d'Osiris et d'Isis. Cet état d'âme extatique était une sorte de degré préparatoire à la clairvoyance réelle, le prélude à la vision de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le néophyte ne pouvait lire dans la chronique de l'Akasha les faits qui viennent d'être décrits aujourd'hui que lorsqu'il avait atteint ce degré d'initiation dont nous venons de parler et que nous continuerons d'étudier demain. Nous parlerons également des autres constellations du zodiaque et de leur signification.